Service du contrôle judiciaire et des enquêtes de personnalité. Septembre 2012. Moyen d'existence. Il est entièrement à charge de ses parents, lesquels lui fournissent jusqu'à son argent de poche et son habillement. Il manifeste quand même le souhait de se mettre au travail dès qu'il sera remis en liberté. Moralité. Ce garçon, plutôt enclin à la paresse, paraît de moralité assez douteuse et manque manifestement de franchise dans ses explications. Caractère. Il donne comme définition de son caractère qu'il est un garçon serviable, qu'il a bon cœur. Il reconnaît qu'il a été assez longtemps influençable, mais que depuis quelque temps, il réfléchit beaucoup avant de prendre une décision. Saïd aurait abandonné le collège en troisième avant d'obtenir son brevet. C'est en tout cas ce qui est écrit dans le dossier d'instruction et ce qui fut répété pendant le procès. Mais certaines de ses connaissances me jureront qu'il est allé jusqu'en première. Quoi qu'il en soit, il s'est joué quelque chose dans ses années de fin de collège. Des années charnières où le rail a dévié pour l'emmener dans le décor et où les premiers filets tissés par son entourage et par la société n'ont pas su retenir l'élan de son embardé. Comme si le nom du quartier des Pentes, où il est né, l'avait prédestiné à glisser, tout doucement, inévitablement. À sa sortie du système scolaire classique, Saïd commence une formation dans un lycée professionnel pour devenir carrossier, un apprentissage rémunéré 450 euros par mois qu'il ne termine pas. Aux enquêteurs, il déclarera avoir préféré s'orienter vers une formation de chauffeur de poids lourd que Pôle emploi lui avait proposée. Mais la collision mit fin à ce projet. Ma recherche d'indices sur la généalogie de sa violence m'a conduit devant un gros bâtiment en pierre qui abrite la bibliothèque et le centre social de la Croix-Rousse. C'est un des points névralgiques du quartier où des parents débordés se débarrassent de leurs enfants le temps d'une après-midi et où des jeunes se retrouvent après les cours pour faire du sport. Ici, l'abnégation de dizaines d'éducateurs permet aux gamins des Pentes de découvrir autre chose que ce que les déterminismes leur ont secrètement concocté. Le centre social dispose d'un café, de plusieurs salles d'activité et même d'une serre botanique. Dans le hall propre, des affiches proposent des formations, des cours, des ateliers d'insertion, des offres d'emploi et du soutien administratif pour les demandes d'allocation. Une petite armée de travailleurs sociaux rayonne autour de ce centre pour pallier les limites de l'éducation nationale par de l'éducation populaire, du sport et de l'aide aux devoirs. Presque tous les jeunes en difficulté des Pentes de la Croix-Rousse sont passés entre leurs mains. Moi, je préfère voir quatre gamins qui discutent dans notre bibliothèque que quatre gamins qui discutent dans une allée. Trogne à la Audiard et Carrure d'Écarisseur, Mounir est l'un d'eux. Sa vocation se résume à faire en sorte que le moins de jeunes possible partent en vrille, et que quelques-uns, avec un peu de chance, s'assurent un destin. C'est une belle formule, s'assurer un destin. Une formule qu'il a polie en 30 ans de travail social dans tous les quartiers chauds de la région lyonnaise. Mounir a appris à se faire respecter des gamins des Pentes, quitte à envoyer des baffes aux petits qui se prennent trop vite pour des grands. Son autorité naturelle, il la raconte à sa façon, dans un éclat de rire tonitruant. Une fois, il y en a un qui m'a mal parlé. Je lui ai mis une de ses mandales, le môme il est parti comme un élastique. Mounir connaît les noms de tous les jeunes qui ont zoné sur les Pentes ces 20 dernières années. Si on ne l'arrête pas, il peut passer une heure à décrypter les innombrables et picrocolines guerres de clans qui se sont déclenchées entre ceux du haut des Pentes et ceux du bas. Le tout avec une précision d'historien et un name-dropping de chroniqueur mondain. Avec ses collègues, il a développé un savoir-faire qui tient de l'orfèvrerie humaine pour attirer les garçons qui traînent. L'hameçonnage consiste à leur proposer un match de foot sur un vrai terrain et à leur faire promettre qu'ils viendront au moins une fois. Quand la ligne tire, Mounir les fidélise par des inscriptions, puis utilise le prétexte d'une sortie groupée pour aller demander l'autorisation parentale et ainsi rencontrer la famille. Des stratégies à trois bandes afin de repêcher ceux qui partent à la dérive. Et quand on chope la famille, on arrive à nouer un lien de confiance et paf, le gamin est cerné. C'est comme ça qu'on avance. Grâce à un solide réseau d'informateurs parmi les jeunes du quartier, les éducateurs identifient aussi ceux dont il faut surveiller la fièvre transgressive. Lorsqu'il parle de sa vocation, Mounir emploie des métaphores de réparateur automobile ou d'aiguilleur ferroviaire. En tout cas, quelque chose à voir avec la mécanique. Comme si l'humain était une machine dont des professionnels savent faire le diagnostic, remplacer les pièces défectueuses et resserrer les boulons. Ce n'est pas un hasard si ce que je cherche chez Saïd, depuis le début, ce sont ses ressorts, et si chaque étape de son parcours me sera décrite comme un dysfonctionnement. Le centre social est un de ces lieux qui redonnent foi en l'humanité. C'est une expression galvaudée et emphatique, mais ceux qui se désolent sur l'état de la jeunesse gagneraient à faire un tour dans ces foyers. On y croise des femmes et des hommes guidés par la simple conviction que rien n'est jamais écrit d'avance et qu'il est toujours possible de provoquer l'étincelle qui va tout changer, même dans les cas que l'on croit désespérés. Un travailleur social résume les choses ainsi. Si on avait un objectif de résultat, ça ferait longtemps qu'on aurait fermé boutique. Pourtant, la Croix-Rousse est loin d'être l'un des quartiers les plus difficiles de Lyon. Pour moi, les jeunes loubards des Pentes ont une longueur d'avance sur ceux des Minguettes, parce qu'ils ont les codes de la ville et bénéficient d'une mixité sociale qu'on ne trouve nulle part ailleurs à Lyon. À en croire les anciens du quartier, cette mixité a connu son âge d'or au début des années 2000, à une époque où chacun menait son chemin sans mordre sur celui des autres. Dans ce creuset où cohabitaient les ouvriers maghrébins et les sans-papiers du Sahel, les artistes, les bohèmes, les punks à chiens, les prostituées, les classes moyennes, les premiers bobos et les fêtards. Une petite tour de Babel dont le fragile tissage fut pourri à partir du milieu de la décennie par la drogue. C'est ça qui a tout changé. C'est dans ces années-là que les premiers gofastes venus du Maroc et d'Espagne commencent à convoyer de la drogue par centaines de kilos. Leurs interceptions par les forces de l'ordre sont alors traitées comme des informations spectaculaires par les médias, qui n'en reviennent pas de voir des scènes dignes d'un film américain se dérouler sur une bretelle de lacets. À Lyon, des jeunes s'improvisent grossistes et répartissent la marchandise dans l'agglomération. Rapidement, le quartier central et populaire de la Croix-Rousse devient une plaque tournante où les profits sont mirifiques et les risques dérisoires. C'est royal ! Mime Mounir les bras en croix. Imagine, t'es en bas de chez toi, les gens viennent à toi, prennent leur machin, t'as rien sur toi quand tu te fais contrôler, ça va d'une cave à l'autre, et quand on te chope avec 4 kilos de shit, tu fais que 3 mois de prison. Pourquoi s'emmerder à rentrer dans les clous ? Y'a pas photo. Le trafic se structure autour de petits commerces factices, généralement des bars à chicha ou des sandwicheries, dont la comptabilité sert à blanchir les premiers profits. Beaucoup d'adolescents deviennent des petites mains à tous les échelons du trafic et planquent la cam dans le gruyère des Pentes, jusque dans le centre social, parfaitement situé et hors de tout soupçon. Un soir, en fermant les portes des bureaux, un travailleur social tombe sur des sacs remplis de résine de shit, cachés dans une armoire. Un jeu du chat et de la souris s'installe entre les éducateurs et leurs jeunes. Là où ils passaient, on repassait derrière. Et on faisait disparaître ce qu'on trouvait. Eux étaient super énervés de ne pas retrouver ce qu'ils avaient planqué. Ils pensaient qu'ils s'étaient fait arnaquer par un copain, puis ils réglaient leur compte entre eux. C'était fou. Le manège des petits dealers alerte la police, qui fait ses premières descentes. Et c'était pas la municipale, se souvient Mounir. Une fois, la BRI a débarqué avec ses chiens pour fouiller le bâtiment de fond en comble. Et le pire, c'est qu'ils trouvaient quelque chose à chaque fois. C'est dans ce contexte que Saïd grandit, toute traviole, comme dit Mounir. Tout avait pourtant bien commencé. À 12 ans, Saïd fréquente le centre réservé aux enfants, quelques rues plus haut. Pendant ses années de collège, il appartient à un petit groupe de jeunes que les éducateurs emmènent à la montagne ou initient au sport d'eau vive. Il intègre même l'équipe de futsal qui participe à des championnats inter-centres sociaux partout en France. Mounir voit pourtant le garçon espiègle, choyé par sa famille et apprécié des éducateurs, montrer les premiers signaux inquiétants. Les après-midi passés à descendre des canettes de bière et à fumer des joints sur les murets du parc de la place Colbert, et l'indolence qui transforme l'enfant en jeune de plus en plus insaisissable. Saïd va moins souvent en cours, il se met à traîner devant des halls d'immeubles, puis ne se cache plus d'être l'un des nombreux revendeurs de shit des Pentes de la Croix-Rousse. Il y a tellement de fric. Tellement de fric. C'est pour ça que c'est difficile de les aider. Mounir n'a pas vu Saïd depuis 10 ans, mais parle de lui comme s'il lui avait passé un savon le matin même. Il décrit un petit caïd à 2 francs, une tête de lard, un dealer à la petite semaine qui n'hésitait pas à frimer quand les mois étaient fructueux. Un autre éducateur social croit savoir qu'il lui arrivait de gagner plusieurs centaines d'euros par jour. Avec le temps et l'âge, certains de la bande accéderont à une autre dimension, se mettront au braquage ou au trafic de plus haut niveau. L'un de ceux qui accoururent sur le lieu de la collision pour faciliter la fuite de la moto montra avec ses frères l'une des plus grosses filières de cocaïne de Lyon. Il traînait avec une bande plus audacieuse, qui braquait des commerces, des supérettes, des stations-service. C'était une équipe de bracassés qui se croyait plus fort que tout, sûr de leur coup tout le temps, quoi. Avec Saïd, Mounir a tout essayé. La raison, les sentiments, même le chantage affectif, en lui rappelant le caractère droit, sérieux et travailleur de ses parents. Je lui disais « Tu vois pas que ta mère pleure à chaque fois que tu sors de garde à vue? Toute ta vie, tu vas la passer comme ça, là ?» À chaque fois, Saïd promet qu'il se tiendra à carreau. Et à chaque fois, il replonge. Dans le milieu des petits dealers de la Croix-Rousse, la pression des pères est trop forte. C'est une glaise visqueuse dont on ne s'extrait une fois que l'on y a posé le pied qu'à force de volonté et à condition de saisir les gaffes que Mounir et son équipe tendent depuis le rivage. Je me souviens que Saïd nous en parlait. Il reconnaissait qu'il fallait avoir une sacrée personnalité pour se détourner des conneries du quartier et essayer de suivre une voie qui était autre. Et c'est ça qui lui a manqué, la forte personnalité pour s'extraire. Certains y arrivent pourtant, comme le petit frère de Walid, l'assassin d'Abdel, un garçon qui s'est fait martyriser par les gamins des pentes pendant des années parce qu'il refusait d'être impliqué dans le trafic et qu'il s'accrochait à l'école. Il est aujourd'hui ingénieur. À cette pression sociale se greffe un autre élément déterminant. Le jeune Saïd est écrasé par le charisme de son grand frère, à qui il voue une admiration sans borne. C'est peut-être là que se situe l'une des clés de compréhension du personnage. Et c'est aussi la théorie de l'avocat Alfred Cordier. Un garçon qui n'est jamais parvenu à acquérir la stature de son aîné et qui s'est épuisé en coups de pied et de poing pour tenter d'exister dans son regard. La malédiction d'avoir un grand frère meilleur que soi. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour entrer dans l'intimité d'une relation qui a pris fin brutalement. Mais plusieurs sources m'ont confirmé que Saïd a grandi perpétuellement amoindri par l'aura de son aîné, et qu'il s'est réfugié dans l'amitié d'une bande dont il n'a jamais saisi la toxicité, un petit clan de semblables qui ont comblé son besoin de reconnaissance au moment crucial de la sortie de l'adolescence. Contrairement à la génération des grands frères, dont la discrétion était à la mesure de leur notoriété, Saïd et ses amis débordent. Ils friment, louent de grosses voitures et se font remarquer, dans une quête inespérée de reconnaissance. La drogue n'est jamais qu'une voie d'enrichissement facile. C'est un écosystème. Mounir décrit même une gangrène devenue culturelle. L'appât du gain, les films américains, les clips de rap, les gonzesses, les motos, les Ferrari, les liasses de fric, ils sont tous dans ce délire. Ils rêvent de ce monde-là. Ils se prennent pour des barons et roulent comme des barjots. C'est une piste cruciale, mais politiquement sensible, qui expliquerait en partie le comportement qui a mené Saïd à la collision. L'imaginaire lié à la drogue. C'est aussi dans ces années-là que la roue arrière devient un leitmotiv incontournable des clips de rap et de ce qu'on appelle, pour simplifier et ne pas se faire trop d'ennemis, la culture de banlieue. C'est compliqué de critiquer le rap. Généralement, ça nous catalogue dans une case où grenouillent des gens à qui on préfère ne pas être associé. Quand on s'y essaie dans un milieu intello, les réactions fusent, et à raison. Ceux qui ont criminalisé la culture ont souvent eu tort. On ne tranchera pas si les œuvres prescrivent en banalisant ou si elles ne font que décrire une réalité préexistante. Quoi qu'il en soit, la roue arrière s'est ancrée dans les comportements d'une partie des jeunes en même temps qu'elle a reçu son adoubement artistique. Il existe un rapport d'information parlementaire qui effleure cette piste. Publié en 2021, le document se penche sur l'évaluation de la loi anti-rodéo, qui, depuis 2018, fait de cette figure, lorsqu'elle est exécutée en ville, un délit passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Un renforcement de la sanction qui illustre la montée en puissance du phénomène et de son contentieux de masse. C'est un texte perturbant. D'abord, parce que les députés ont choisi Lyon comme terrain d'étude. Lyon fut la première ville, en septembre 2020, à se doter d'une cellule de police anti-rodéo. Ensuite, parce qu'il confirme à quel point l'accident de la rue Romarin est archétypal. Il indique que les rodéos ont généralement lieu en été, dans le créneau 17h-23h, celui qui tua ma mère survint en juin à 17h13. Concernant le profil type des auteurs de rodéos, il précise encore. Il s'agit essentiellement de jeunes hommes, habitant des quartiers défavorisés, souvent connus des services de police. Quelques jours après la publication de ce texte, un collectif de rappeurs appelé les Dalton parvint à occuper les bandeaux télé en enchaînant les rodéos urbains en meute, en plein centre-ville et au milieu des passants, en filmant ses exploits en direct sur les réseaux sociaux. Aucun passant ne fut blessé, mais deux motards furent condamnés à de la prison ferme. Ce rapport parlementaire est un trésor de chiffres et de recommandations pour lutter contre l'explosion de cette forme insupportable de délinquance. Il explique notamment que le rodéo est une façon de tuer l'ennui entre personnes du même quartier. C'est très juste. On ne mesure pas assez le rôle de l'ennui dans la transgression et la mise en danger de soi. Cet ennui, qui a parfois la puissance d'un psychotrope aussi efficace que la cam planquée dans les bananes Gucci de contrefaçon. La charge explosive de l'ennui pourrait s'appliquer au rodéo urbain, comme à la prise de drogue ou au vote pour un parti radical. Une recherche de tragique, un désir d'orage, dont on peut ignorer les conséquences du moment que la jubilation est instantanée. Mais l'aspect le plus intéressant du phénomène, et étrangement le plus rapidement survolé, concerne la culture de rue. Les députés écrivent que le rodéo urbain s'explique par une culture de la compétition, de la satisfaction immédiate et l'envie de braver les interdits, ainsi que par la volonté de se mettre en scène. Il parle même de rites initiatiques d'intégration dans les quartiers. Un détour par le Maroc renseigne sur cette culture de la moto dans laquelle Saïd et sa bande baignaient avant l'accident, comme beaucoup de jeunes de leur âge, tout milieu confondu. L'été qui précède la collision, au moment même où ma mère quitte son métier d'architecte pour se lancer dans son projet de centre de yoga, Saïd et Youssef décident d'aller au Maroc au volant d'une Peugeot de grosse cylindrée. Avant le départ, Youssef se rend dans le quartier de la Guillotière où il se procure une fausse attestation d'assurance afin de conduire le bolide. Nouvelle combine, nouveau risque, mais qui permettent à la joyeuse bande de rouler vers cette région balnéaire dont Saïd et la plupart de ses amis des Pentes sont originaires. Il est crucial d'y aller en voiture, et surtout d'y arriver en voiture. Les jeunes qui rentrent au pays s'y font remarquer parce qu'ils roulent vite et qu'ils font du bruit. Et rouler vite en faisant du bruit, en pétaradant, en exécutant des roues arrière en motocross, des dérapages en fumée avec sa voiture sur un parking de bord de mer, est non seulement un passe-temps populaire, mais un signe de réussite. Celui qui veut signifier son émancipation économique, voire le dépassement de sa condition humaine, le fait en enfourchant une moto rutilante qui devient l'allégorie de sa vie, une monture dont il prouve à tout le monde qu'il sait la maîtriser et lui dicter sa route. Il n'y a qu'à faire un tour sur les réseaux sociaux de la bande de Saïd pour prendre la mesure de la prégnance de cette culture. Presque tous mettent en ligne des photos où ils posent assis sur une motocross, parfois en exécutant un V ou un W avec les doigts. Un jour, des historiens ou des anthropologues se pencheront sur le rodéo urbain et verront peut-être une corrélation entre l'apparition du phénomène et celle du selfie, à peu près concomitante. Une pratique qui traduit le besoin d'exister par tous les moyens et offre un succès d'année de célébrité dans le cas du selfie, de prouesse sportive dans le cas du rodéo et où les regards effarés du quartier équivalent à une distribution de cœurs et de pouces levés. La roue arrière incarne aussi ce que l'époque valorise. La prise de risque, le tapage, le kitsch, le dédain envers les plus faibles qui ne sont forcément que des obstacles. Le rodéo urbain, ou la traduction délinquante du plus impitoyable néolibéralisme. Il est fréquent de lire que la route est un miroir des maux de la société, dans lequel le collectif contemplerait ses traits. Les chiffres semblent valider cette piste, érigeant la pratique en phénomène de société plus que de mode. D'après le ministère de l'Intérieur, les rodéos urbains ont augmenté de 83,6% entre 2022 et 2023. À moins qu'elles ne soient pas si ancrées qu'on ne le pense, assimilables à une bizarrerie de ce début de siècle, susceptible de disparaître bientôt. Après tout, on se demande bien aujourd'hui comment les enseignants ont pu fumer en classe devant leurs élèves pendant des décennies. En me raccompagnant sur les pentes, Mounir me confie son impuissance à expliquer la dérive de Saïd. Il préfère conclure à sa façon. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ce gamin, mais il a merdé, grave, et il le sait. Quand Mounir assène ses sentences au hachoir, Alain, lui, a du mal à finir ses phrases. Il les termine souvent par « enfin, je sais pas » ou « je vois pas trop comment vous dire ». Mais on comprend parfaitement ce qu'il veut dire. Ces points de suspension racontent 30 ans de carrière de flic frustré par la réalité du terrain et les bras de fer perdus face aux magistrats. Un homme passionné par son métier, sa vocation, dont les illusions sont tombées les unes après les autres et chez qui le mal-être policier, ce fameux mal-être dont les médias parlent depuis des années, a fini par envahir le corps et corrompre l'addiction. Alain fut de ceux qui menèrent l'enquête sur l'accident. En 2012, il était commissaire adjoint au commissariat central de Lyon, sur la place de l'Hôtel de Ville. Il y a dirigé une centaine d'agents, et on peine à le croire quand on observe l'intranquillité de son corps, le tremblement de ses doigts, son visage émacié dont les yeux cherchent constamment leur point de fuite, sa manière de s'excuser quand il s'exprime. Aujourd'hui, Alain a rendu son badge, comme on dit dans les séries, après avoir été menacé personnellement par la bande des Pentes. Il a changé de vie, pour devenir artisan dans un village des monts du Lyonnais. Il a longuement hésité avant d'accepter de me rencontrer. Sa femme a même tenté de l'en dissuader. Il ne voulait pas revivre tout ça. Tout ça, c'est la mort de ma mère, qui fut pour lui un traumatisme, sans qu'il sache trop l'expliquer. De son propre aveu, des accidents et des personnes décédées, il en a vu des dizaines au cours de ses années à la PJ et au commissariat central. Et pourtant, votre mère, je ne sais pas. Beaucoup de policiers qui étaient en poste au moment du drame me raconteront le même sentiment de colère, de raté, qui a longuement marqué le commissariat et dont ils parlent encore 13 ans plus tard. Une faute professionnelle, presque. Parce que ça ne devait pas arriver. Parce que c'est arrivé à côté du commissariat, parce que, je sais pas moi, parce que... Alain connaissait très bien Saïd pour l'avoir interpellé des dizaines de fois. Quand il parle de lui, il tape souvent du poing sur la table. Un petit coup sec plein de colère rentré et accumulé, qui fait sursauter les tasses. Et son regard se perd à nouveau dans le vide, comme s'il avait personnellement connu ma mère. Voir l'innocence percutée par quelqu'un qui n'a rien à foutre là et qui aurait dû être remis sur les rails depuis belle lurette si les choses avaient été faites correctement, ça a... Ses mâchoires meulent la rancœur qui l'a longtemps accompagnée après la collision, celle d'avoir pressenti qu'une telle catastrophe allait forcément arriver. Au moment de sa prise de poste au début des années 2000, le directeur départemental de la police l'avait prévenu qu'il fallait avoir les reins solides pour le commissariat central. Mais la violence à laquelle il ne s'attendait pas, c'est cette impression de travailler pour rien. C'est pourtant gonflé d'ambition qu'il était arrivé dans le secteur avec la ferme intention de démanteler les réseaux qui inondaient le quartier. C'est même la complexité et la densité des pentes qui faisaient tout le charme du job, comme il dit. Afin de motiver ses troupes et de ne pas se fossiliser en policiers de bureau, Alain les accompagnait souvent en patrouille. Il repère vite Saïd et sa bande qui dealent toujours dans les mêmes rues, au pied des mêmes immeubles, et ne tarde pas à les fixer dans son collimateur. Il faisait partie d'un groupe de dealers qui jouait à cache-cache avec les équipages à longueur de journée. À chaque fois qu'on l'arrêtait, le proc nous demandait de le libérer dans la foulée parce que sa barrette de shit correspondait à de la consommation. On avait beau l'auditionner 20 fois de suite, à chaque fois il ressortait. Il n'y avait rien derrière. Aucun suivi, aucun juge pour enfants, rien. Alain se sent vite dépassé par la vitesse de propagation de cette gangrène dont le pays mettra des années à saisir l'ampleur. Mais il ne baisse pas les bras. Il met en place de savants dispositifs de surveillance depuis des appartements dans l'espoir d'obtenir des flagrants délits et de remonter les filières, afin d'intéresser les groupes spécialisés dans les affaires de stupéfiants. Sachant que le niveau auquel le commissariat s'arrête, ça n'intéresse jamais la justice. Les quelques fois où il parvient à des arrestations significatives, la place vacante est immédiatement comblée. Le trafic reprend et il doit repartir de zéro. Et de toute façon, les jeunes nous connaissaient par cœur, donc on se faisait repérer tout de suite. Saïd nargue les policiers qu'il croise, occupe le terrain en un pied de nez permanent. Notre avocat nous avait expliqué, dès le premier rendez-vous, que ces jeunes connaissaient la procédure pénale mieux que personne, et qu'à aucun moment la police ne les impressionnait ni n'avait de prise sur eux. Ce qui fait dire à Alain que la collision était inévitable. Selon lui, ce sentiment d'impunité, de surpuissance, cette certitude de s'en sortir quoi qu'il arrive, allait forcément déborder, finir dans le mur, finir dans une cycliste. Dans les semaines qui suivent la collision, Alain fait une affaire personnelle du cas de Saïd, comme pour atténuer la colère qui l'accompagne désormais chaque matin quand il se rend au commissariat. Savoir que le jeune traîne encore dans le quartier, malgré l'interdiction de son contrôle judiciaire, l'humilie jusque dans sa vocation de gardien de la paix. 5 mois après l'accident, Saïd est libéré de détention provisoire et se fait immédiatement repérer dans le premier arrondissement. Alain appelle le juge d'instruction, qui lui ordonne de ne plus interpeller Saïd et lui enjoint de plutôt faire un rapport à chaque fois qu'il sera aperçu dans le secteur. Alain sait pertinemment que ce genre de procédure est inutile, mais décide de prendre la consigne au mot. Il en inondera le bureau du juge d'instruction. Pendant 8 mois, des dizaines et des dizaines de rapports correspondant à toutes les fois où Saïd est aperçu dans l'arrondissement seront envoyés au magistrat. Mes hommes me disaient « Mais commandant, on le voit tous les jours !» Et je leur répondais « Alors vous me faites un rapport tous les jours !» Un document témoin circule entre les policiers. Une trame préécrite sur laquelle les agents n'ont qu'à modifier la date et le nom de la rue où Saïd a été aperçu. Aujourd'hui, Alain s'excuserait presque d'en avoir trop fait. Vous savez, des accidents comme celui qui est arrivé à votre mère, ça peut déclencher des réactions humaines assez violentes chez les flics. Cette petite guérilla de papier porte ses fruits. Lorsque les commerçants des pentes se mobilisent à leur tour et interpellent publiquement la commissaire en chef au sujet de la présence de ce délinquant dans leur rue. Signe éclairant de l'évolution du quartier et de ses dynamiques de pouvoir. C'est ce ras-le-bol des riverains qui décidera le juge à réincarcérer Saïd, après 8 mois d'aller-retour dans le secteur, au nez et à la barbe des autorités. On serait tenté de voir dans l'histoire que raconte Alain l'illustration du laxisme judiciaire que beaucoup décrit. De toute évidence, le filet de la justice a raté quelque chose. Ceux comme moi qui n'y connaissent rien pourraient s'attendre à ce qu'un contrôle judiciaire contre un homme qui a tué soit appliqué avec plus de rigueur. Mais l'épisode n'étonne pas Alain, qui s'est toujours senti écrasé par la lourdeur et la lenteur de la procédure pénale. Il en a nourri une rancœur contre ses procureurs qui répondent « dehors » à chaque fois qu'il tient un voyou par le col, et une envie de cogner les murs pour que ça aille plus vite. Pourtant, Alain a l'intelligence de ne pas tomber dans la dénonciation aveugle de juges anesthésiés par la culture de l'excuse. Il parle plutôt d'un système saturé. Cette saturation est frappante quand on se rend au commissariat central de Lyon, celui où il a exercé pendant 20 ans. Un policier qui a enquêté, lui aussi, sur la collision, me reçoit dans les couloirs. À cause de sa dégaine de vieil ours qui a tout vu, on le surnomme le pilier. Sa tanière est un bureau minuscule de 10 mètres carrés qu'il partage avec un collègue où les procédures jonchent le moindre espace disponible. Si bien que les armoires ne ferment plus et que leurs étagères en métal ploient sous le poids du travail qui reste à abattre. Des tas de dossiers s'empilent sur les coins de table, jusque sur les chaises en bois prévues pour les rendez-vous, disparues sous des entassements de pièces sous scellés. Le pilier estime qu'il manque une dizaine d'hommes dans sa brigade. Tous les policiers que vous voyez là, ils ont chacun plus de 250 dossiers de procédure en cours ou à traiter. Lui aussi dénonce une procédure pénale qui s'est complexifiée au fil des ans, multipliant les risques de vice de forme, la hantise des policiers, ces fissures qui offrent aux délinquants autant d'occasions de s'extirper. On est obligé de convoquer, d'entendre les gens, de passer par les médecins, les psys, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Aucun dossier n'est traité en une journée, Ça prend au moins une semaine. Pendant que vous faites un dossier, un autre arrive, donc vous le mettez de côté. Rien qu'en vous parlant, je prends du retard. Il faut prendre ce que ces hommes disent avec précaution. C'est un point de vue de policier, partial, partiel, qui se focalise nécessairement sur le pire, qu'il s'agisse des individus ou des mécanismes qui rendent la cohabitation collective vivable. Comme me le dira un magistrat, si la justice était rendue par les flics, on serait tous en tôle. Mais l'analyse du parcours de Saïd raconte aussi les manquements de services publics qui se sont retrouvés désarmés face à la délinquance du quotidien aggravée par le trafic. L'accident n'est pas qu'une imprudence individuelle. Il est le résultat d'un lent ravinement collectif qui s'est accompli par étapes, par érosion budgétaire successive, et a permis la dérive toujours plus lointaine d'hommes privés peu à peu de perches solides à saisir. Alain parle aussi d'une génération qui aurait plus d'aplomb que la précédente, qui choisirait la violence plus facilement que ses aînés, sans qu'ils soient capables de l'expliquer, encore moins de le chiffrer. Les rapports avec les gens sont plus difficiles, plus tendus qu'avant. Il y a 20 ans, on pouvait arriver dans un appartement à deux pour interpeller quelqu'un. On se faisait insulter par les grands frères, mais on n'était pas agressé, alors que là... Il avale son café d'une traite et termine par une révélation soudaine qui semble le surprendre au moment même où il la formule. Pour être complètement honnête, les comportements des flics ont changé aussi. Aujourd'hui, on a des golgothes rasés et harnachés comme des porte-avions. En fait, tout le monde est devenu plus violent. Dans les années qui suivent l'accident, le même schéma se répète dans les moments où Saïd doit choisir une voie. À chaque fois, il balaie systématiquement les possibilités de se racheter ou simplement de passer son chemin. Il ne s'empêche jamais. On aimerait le retenir par le bras, le faire asseoir, s'accroupir au niveau de son souffle, l'apaiser, peut-être lui mettre une petite claque sur le cou à la manière d'un coach de boxe dans un coin du ring, le convaincre qu'il peut mieux faire, que la vie est plus vaste que le périmètre congru qu'il lui accorde et trop riche pour mériter l'acharnement quasi méthodique qu'il met à la bousiller. Mais à chaque fois, Saïd donne un coup de corne et se libère de l'étreinte pour se livrer aux forces intérieures qui le brûlent. L'étude de son dossier raconte une vie scandée de violences et de scènes auxquelles j'aurais pu assister, du temps où j'étais lycéen et que je faisais mes premières sorties dans les bars au bas des pentes de la Croix-Rousse. Comme ce soir de l'été 2021, 9 ans après la collision. La scène se déroule à 3 heures du matin, l'heure où la nuit peut tomber d'un côté ou de l'autre. Les bars ont fermé et déjà relâché leur clientèle d'étudiants peinte en main sur la chaussée. Les taxis klaxonnent dans les petites rues, les éclats de rire et le tintement des tessons provoquent les premiers appels à la police. Et de petits groupes épars titubent en riant vers la place des terreaux pour trouver des vélos en libre-service. C'est au croisement des rues Romarin, Sainte-Catherine et Saint-Polycarpe que les suites de la nuit se décident généralement, les yeux rouges et les neurones saturés de sérotonine. Les plus gaillards se débrouillent pour acheter une bouteille de rosée chez un épicier et finissent sur les quais du Rhône, allongés dans l'herbe. Lors d'une de ces soirées d'été, Saïd se trouve donc rue Romarin, cette petite rue où il a tué ma mère 9 ans plus tôt. Entre-temps, il s'est mis à travailler. Et surtout, il est devenu père. Ou plutôt, il a eu un enfant, c'est plus précis. La paternité et le fardeau de ses responsabilités auraient pu l'assagir, mais la suite montre que non. Nouvelle occasion manquée. Nouvelle branche qui se brise ou qu'il refuse de saisir, et qui précipite sa chute. Saïd vit alors sous la menace d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée 2 ans plus tôt dans une autre affaire. Personne ne sait vraiment pourquoi la bagarre éclate ce soir-là. Mais soudain, un homme sort de sa voiture pour empêcher une altercation et un ami de Saïd lui assène 2 coups de poing à la mâchoire. Le visage en sang, l'homme rattrape un membre du groupe par le t-shirt et tente de le faire chuter avec un croche-pied quand Saïd se rue sur lui. La déposition de la victime décrira Saïd comme le plus violent de la bande. Il jette une bouteille puis un casque de moto sur l'homme qui cherche refuge dans sa voiture. D'un coup de pied, il casse un rétroviseur et s'acharne sur une des portières jusqu'à l'enfoncer. L'homme qui a croisé la route de Saïd termine sa nuit aux urgences, avec une contusion à la tête et des plaies au visage. Saïd, lui, est interpellé. En Sisyphe des pentes, il a laissé dégringoler son rocher une nouvelle fois. À l'issue de sa garde à vue, les policiers noteront cette phrase. Ils reconnaissaient qu'il était énervé et qu'il avait agi bêtement. Pour résumer le personnage, Alain avait eu cette formule lapidaire. Il avait la bêtise à fleur de peau, à laquelle il avait ajouté « Il était vraiment beaucoup trop bête pour espérer quelque chose de sa vie. Même comme délinquant, il était beaucoup trop bête. » Ça m'avait fait sourire, parce que ça me rassurait, et que ça allait dans mon sens. Mais ça ne m'avançait pas beaucoup. Un ami scénariste, qui a l'habitude des trames et des arcs narratifs, et auprès de qui j'évoquais mes recherches, s'interrogeait sur le manque d'épaisseur du personnage. « Tu n'as pas peur d'explorer le vide ? Peut-être que tu as eu juste affaire à un idiot. À quoi bon disséquer le parcours d'un idiot alors ? Ce qui est intéressant, ce sont les personnages qui boxent dans une catégorie supérieure, ceux qui ont des dilemmes moraux, des contradictions, qui se rachètent après s'être perdus ou dont la perdition dévoile l'universel de l'âme humaine. En l'espèce, nous ne sommes pas face à un tueur en série plus grand que nature, qui pourrait inspirer une série documentaire à un Jean-Claude Roman ou un Raskolnikov torturé par ses démons. Alors pourquoi s'obstiner à dessiner une vie de pulsions, dépourvue de systèmes et de méandres ? Lors d'un récent dîner familial, il y eut une discussion animée sur l'attitude à adopter face à Saïd. Un cousin de ma mère nous révéla qu'il songeait à lui rendre visite en prison. Pas pour lui donner des leçons de morale, pas du tout, ça sert à rien, mais juste pour comprendre ce qui l'a amené à faire ça. Qu'il prenne conscience qu'une famille est dévastée à cause de lui, peut-être que ça le fera changer de direction. Mon père l'interrompit sèchement. Y a rien à attendre. Ces mecs-là, ils sont dans un autre monde. Ils sont pas comme toi et moi. Si nous on tue quelqu'un dans un accident, ça nous marque à vie, ça nous traumatise, ça change notre comportement, ça nous suit. Pas eux. Pas les mecs comme ça. Les mecs comme ça, c'est justement cette image englobante qu'il s'agit ici de percer. Parce qu'on n'est jamais qu'un mec comme ça, que tout le monde a quelque chose à raconter, ou du moins mène une existence qui raconte quelque chose, et que la société produisant ses propres dérives, une vie comme celle de Saïd, nous raconte. J'ai parlé à beaucoup de gens qui ont eu affaire à lui. Mais ceux à qui je me suis adressé l'ont essentiellement fréquenté dans le cadre de leur fonction. Le crayon qui esquisse le portrait de Saïd étant arrivé à court de mine, je dois inévitablement passer par ceux avec qui la prise de contact est la plus délicate.